La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de cette table Pascal Saut, le directeur adjoint de la rédaction du JDD, Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Bruno Jeudy, directeur en chef politique à Paris Match. Il nous reste un point à voir concernant ces législatives qui approchent. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous hein, dimanche pour cette grande soirée électorale à partir de 18h sur Europe 1. Les ministres. Il y a quand même des ministres qui avaient une épée de Damoclès au-dessus d'eux en disant voilà, obligation de résultat, si vous n'êtes pas élu, vous sortez du gouvernement. Et Jacques Serret, il y en a trois où on n'est pas sûr que ça passe.
Oui, trois ministres, Clément Beaune, Amélie Montchalin et Stanislas Guérini. Tout simplement trois personnalités aujourd'hui qui sont membres du gouvernement et qui sont clairement menacées, qui dès dimanche soir pourraient devoir... tout simplement démissionner.
Et on sait déjà ce qu'ils ont comme plan B pour leur avenir ?
Il n'y a jamais de plan B avant une élection. C'est-à-dire, en tout cas, ils ne l'avoueront jamais. Pour avoir suivi Stanislas Guérini en reportage hier soir, oui. Il se dit au combat, combatif, confiant aussi. En tout cas, il ne veut pas croire à une éventuelle défaite. Donc, ils mettent toutes leurs forces dans la bataille, en tout cas officiellement, ne pensant à aucun plan B.
Pascal Saut.
Ce qui est intéressant dans leur cas, ce n'est pas tellement le nombre, parce que 3 sur 15, finalement, bon, voilà. C'est plutôt leur identité en fait, parce que Stanislas Guérini, ça a été le chef du parti, donc voilà, il incarne d'une certaine manière l'histoire du mouvement. Clément Beaune, c'était quand même un ministre plutôt bon, qui a plutôt bien fait son travail.
Et donc, proche du président.
Et très proche du président, très apprécié. Et donc, voilà.
Amélie Montchalin, c'est la numéro 5 du gouvernement qui incarne la transition écologique.
En charge d'une émission considérée comme les plus importantes par le président de la République. Donc,
c'est
au
pas
niveau
des ministres de seconde
du point
note,
de vue symbolique, du point de vue symbolique, si ces trois-là venaient à être battus, ce serait quand même un choc.
C'est-à-dire que je partage ce que dit Pascal, c'est-à-dire que c'est. On verra, mais il y a trois ministres en difficulté, c'est-à-dire des ministres qui seraient battus dimanche soir. Ajouter une majorité relative, ça ne ferait pas une très très bonne soirée pour le président de la République et sa première ministre, Elisabeth Borne, qui elle-même est candidate, mais ça devrait passer. Elle a plutôt fait un premier tour assez correct. Donc dans une circonscription, le risque n'est pas non plus très très élevé. Mais enfin bon, une élection, ça se gagne. Donc ce serait quand même compliqué. J'ajoute que la majorité relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président n'a pas 289 sièges. Mmh. Ensuite, il y a majorité relative et majorité relative. Si c'est raté de 2-3 sièges, bon, c'est compliqué, mais Monsieur Macron, Madame Borne auront les moyens de pouvoir aller trouver des députés qui seront conciliants ou bienveillants avec le gouvernement et qui voteront les textes. Si c'est 15 ou 20 sièges qui manquent, ça devient nettement plus compliqué, et ça devient doublement compliqué parce que ce qu'on oublie, c'est que les ministres qui seront élus dimanche, ils vont donc ne pas siéger à l'Assemblée. Leurs suppléants n'arriveront à l'Assemblée qu'un mois plus tard, c'est le règlement. Ça veut dire qu'ils ne seront pas avant le 19 juillet à l'Assemblée. Et donc, d'ici le 19 juillet, pas possibilité de voter des textes.
Ouais.
Et ça peut retarder considérablement l'action du gouvernement qui déjà a pris du retard.
C'est assez étrange, cette règle du suppléant qui n'arrive qu'au bout d'un mois.
Mais ça, c'est le règlement, depuis toujours.
Oui, pardonnez-moi, je trouve que c'est étrange, voilà.
Non, c'est le règlement intérieur, c'est-à-dire que...
Mais ça veut dire qu'il n'est pas représenté.
Le siège n'est pas représenté, mais ça n'empêche pas l'Assemblée de fonctionner. Et puis bon, 15 ministres, c'est 15 suppléants.
Comme vous disiez, de voter les textes.
Mais voilà, ça veut dire que pour voter, pour élire le président, il peut y avoir un problème de majorité. Pour voter la confiance à la première ministre, il peut y avoir un problème de majorité. Et puis pour voter le premier texte sur la loi pouvoir d'achat, il peut y avoir aussi un problème de majorité. Donc, attention, cette soirée peut entraîner de grandes conséquences.
Ouais, grande conséquence. Et en attendant, nous, on a un président qui a revêtu à nouveau son costume préféré, qui est celui de chef de guerre et d'homme de l'international plutôt que des affaires nationales. On a appelé ça le petit train, à mon avis, évidemment à tort, puisque c'était quand même une belle délégation que celle du président français, du chancelier allemand, du président du conseil italien et du président roumain d'aller à Kiev. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était hier après-midi justement dans la capitale ukrainienne.
Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Voilà donc pour le discours d'Emmanuel Macron, immédiatement taillé par certaines figures de l'opposition, dont Marine Le Pen, qui n'y voit là qu'une démarche électoraliste.
Je note que Emmanuel Macron ne fait jamais rien ou ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se sert de cette posture, en quelque sorte, de chef de guerre pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. C'est lui qui fait un mélange des genres. Il ne peut pas aujourd'hui reprocher qu'on lui en fasse grief.
Voilà. Alors, électoraliste ou pas, docteur Serret?
En tout cas, le décalage était saisissant.
C'est dingue.
Décalage, à la fois cette prise de parole sur le tarmac, voilà, qui a marqué les esprits, qui a marqué cette semaine d'entre-deux-tours. Après, ce déplacement était prévu de longue date, dans tous les cas, en Ukraine, de la part du président. Ouais. C'était difficile de ne pas y aller.
À 4, c'est difficile de prévoir ça la veille.
Voilà, c'était en même temps difficile pour Emmanuel Macron de ne pas y aller avant la fin de son mandat, entre guillemets, confié à la France de présider le Conseil de l'Union européenne. Il l'aurait fait avant la présidentielle, il aurait eu la même accusation. Il le fait là, à ce moment-là.
C'est la Suède qui prend le relais, je crois, après la présidence française.
Non, je crois que c'est la République
tchèque.
D'abord la République tchèque.
Pascal Sceaux.
Je ne sais pas, c'est assez difficile. Alors l'interprétation politique, elle est un peu naturelle en période électorale. Donc voilà, chacun joue son jeu, ça n'a rien d'anormal. Après, il faut peut-être penser quand même que les circonstances justifiaient peut-être un peu plus ce déplacement, dans la mesure où quand même on a le sentiment, au regard de ce qui nous est rapporté, que sur le champ militaire, ça se passe quand même pas très bien pour les Ukrainiens.
Ouais.
Que dans le Donbass, les Russes poussent très fort. Il y a des chiffres qui sont quand même effrayants. 50 000 bombes qui sont déversées chaque jour par les Russes contre 5 000 par les Ukrainiens.
Les Russes avaient promis un Grozny.
Voilà, donc c'est une espèce d'enfer. Ouais. Et quelque part, il pouvait sembler nécessaire aux leaders aux trois pays principaux. J'ai rien contre la Roumanie, mais en tout cas aux Allemands, aux Français et aux Italiens, c'est-à-dire les trois principaux pays de l'Union européenne, de montrer par un signe très fort leur soutien à l'Ukraine et à Zelensky. Donc peut-être, ça peut être aussi quand même un élément d'explication sur ce déplacement.
La Roumanie était nécessaire puisque c'est la base arrière, évidemment, de plein de bataillons.
Mais en termes symboliques, évidemment, le fait que les trois principaux pays de l'Union soient là, ça a une force.
Bruno Jeudy, sur justement ce déplacement des chefs d'État à Kiev et cette réaction aussi de Marine Le Pen qui voit là uniquement une démarche électoraliste. On est là dans le marketing politique, j'allais dire de base, pour en approche de ce second tour des législatives.
Non, moi j'aurais pas une approche aussi négative que certains. Je pense que bon, effectivement, les Français, comme disait, je sais plus quel philosophe, les Français arrivent tard, mais ils arrivent. Oui, on peut ergoter. Je pense que le président de la République, d'ailleurs, il y a réfléchi. Il voulait y aller plus tôt. Il y a eu beaucoup d'allers-retours dans le choix d'y aller, notamment avant la présidentielle ou dès le début du conflit, puisqu'il était allé à Moscou et à Kiev à la veille de l'invasion russe en Ukraine. Ensuite, ça a été reporté 10 fois. Il a voulu coordonner un voyage avec les Allemands. Ça a été assez long. Et puis finalement, ça intervient à la veille de la fin de la présidence. Française, c'était un minimum de toute façon d'y aller.
Bon,
effectivement,
Boris Johnson y est, hein, d'ailleurs.
Oui,
là,
Boris Johnson, je crois que c'est la deuxième fois qu'il y va.
C'est la deuxième
fois. Ursula von der Leyen y est allée 2 fois. L'Italien est allé 2 fois. Donc tout le monde y est allé à l'arrivée. Donc bon, voilà, on pourra toujours le reprocher au président d'y être allé dans l'entre-deux-tours des législatives, peut-être. Je crois que l'essentiel, c'était d'y aller, d'essayer d'effacer aussi le différent ou l'imbroglio né des mots d'Emmanuel Macron et qui a créé une hostilité au moins de la presse ukrainienne vis-à-vis de la France et du président français avec ce mot qui est devenu célèbre en Ukraine, macroné, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. On lui en veut de passer des coups de fil à Poutine.
Et de ne pas humilier les Russes.
Oui, voilà, ça, bon, la voilà. Phrase, hein. Je pense qu'Emmanuel Macron s'inscrit globalement dans une certaine tradition d'une diplomatie française qui pense que entre les superpuissances, elle peut faire œuvre de puissance diplomatique et qui mettent les gens autour d'une table. Moi, je crois que c'est la tradition française et qu'il la respecte et qu'il s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs. Mais voilà, avec Emmanuel Macron, il y a toujours aussi un peu de mise en scène. On l'a dit tout à l'heure, le tarmac, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu trop, oui, effectivement. Mais bon, il fallait y aller, il est allé. Maintenant, il faut être efficace aussi. J'observe que sur la livraison d'armes, la France a longtemps tardé à vraiment y aller.
Les canons César, notamment.
Un 6 supplémentaire.
Comme je vous l'ai dit, les Français arrivent tard, mais ils arrivent.